Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le vrai est-il un moment du faux? La France, de la nappe à carreaux, des grands-mères sur les pots de yaourt et le formica. Au revoir la France, bonjour l'hyper-France. Derrière le folklore marketing, une vague nostalgique qui interroge l'auteur de No Fake aux éditions Arquet, qui livre là une contre-histoire de notre quête d'authenticité. Journaliste à Slate.fr, Jean-Laurent Casselli s'agace un peu de ce brouillage entre le vrai et le faux, mais se passionne surtout pour cette quête, l'authenticité. Un sujet moderne, une question contemporaine qui en dirait long sur nos sociétés. On va voir cela avec lui tout de suite. Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour.
Un mot du titre tout d'abord, No Fake, c'est un trumpisme?
Alors No Fake, c'est un petit clin d'œil à No Logo, qui est un essai de Naomi Klein, qui a une vingtaine d'années maintenant, qui moi m'avait marqué à l'époque où je l'avais lu, j'avais 18 ans. Et c'était un essai assez fondateur du mouvement altermondialiste et de la critique du marketing et des marques.
Et de la société de consommation, oui.
Voilà, tout à fait. Et No Fake est une sorte de réponse, en fait, plusieurs décennies après, au message qui était envoyé à l'époque par les critiques de la société de consommation. Je pense que cette critique a évolué et qu'aujourd'hui on ne cherche plus à s'éloigner du marketing ou de la consommation, mais plutôt à s'éloigner de ce qui a l'air faux, de ce qui a l'air emprunté.
Alors nous serions entrés ou réentrés dans l'ère du vrai, dans l'ère de l'authenticité. Quand a commencé ce détour par le vrai pour vous, aussi factice peut-être que permanent?
En fait, il est tout à fait cyclique. C'est vrai que cette obsession du vrai et de l'authenticité, en creusant un petit peu dans l'histoire contemporaine française, ce que j'ai fait pour cet essai, on se rend assez vite compte que c'est une passion qui en fait rejaillit à chaque poussée de modernisation. Au cœur des Trente Glorieuses, les œuvres de Baudrillard, de Debord sont toutes centrées sur cette critique du faux. D'ailleurs, il y a les phrases fameuses de Debord à propos de la nature du vrai, de la réalité. Ces questionnements rejaillissent dans les années 90-2000 avec les débuts d'Internet, l'entrée dans une société de l'information. Et à présent, je pense qu'elles sont liées évidemment aux fake news auxquelles j'ai emprunté mon titre. Mais c'est pas du tout un livre qui parle de fake news, qui parle d'information. C'est plutôt un livre qui parle justement de cette sensation que nous pouvons toutes et tous avoir, qui est que nous avons un doute sur la nature du réel. À cause, je pense, notamment de la profusion d'images déversées par les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux visuels comme Instagram, qui a été fondé en 2010 et qui aujourd'hui compte plus d'un milliard d'abonnés. Donc je pense que la réflexion sur l'authenticité et la panique qui est liée au fait de vivre dans un monde fake ou faux n'est pas nouvelle, mais en revanche, je pense qu'il y a une expression contemporaine qu'on vit en ce moment en 2019.
Vous dites que c'est cyclique et c'est vrai qu'il y a un effet retour de bâton ou retour de mode après plus de 3 décennies d'anonymat et d'uniformisation à l'image des centres commerciaux, des aéroports, de ces non-lieux décrits par Marc Auger que vous citez dans cet essai. Il y aurait peut-être l'envie compréhensible de revenir à ce qu'on connaissait avant, ce qu'on connaît déjà, de retrouver un peu les contours de cette France qui nous rend mélancolique, que vous appelez vous la France de Jean Gabin. À quel angoisse collective, ça répond cette quête du vrai pour vous, cette quête d'authenticité qui est en train de se jouer en ce moment?
Précisément, c'est une réponse à ce que ma génération a vécu dans les années 90-2000, c'est-à-dire la transformation de la France par la globalisation. Vous l'avez dit, les centres commerciaux, plus généralement le monde de la franchise, l'impression que l'urbanisme s'est modernisé et a modifié le visage du territoire au point que Télérama avait parlé de France moche au début des années 2010, le fait que du coup à la fois le paysage et l'environnement culturel dans lequel on a évolué a pu nous paraître collectivement assez faux. Et je pense que la France de Jean Gabin ou de Jean-Pierre Marielle, en tout cas le fantasme quoi de cette France-là, est lié à cette envie de retrouver quelque chose de plus simple. Alors c'est une forme de nostalgie, qui est partagée par les jeunes générations urbaines. Donc on est assez loin de la caricature, de la réaction du retour en arrière. Mais chez ces jeunes, on voit quand même cette attrait pour le passé, en tout cas pour l'idée qu'ils se font de Jean Gabin, parce que je pense qu'en réalité ils n'apprécieraient pas de vivre dans la France de Jean Gabin, mais plutôt dans celle qu'ils imaginent.
C'est qui était sa France à lui.
Enfin, leur vision un peu fantasmée,
c'est quoi,
par les réseaux sociaux.
Et alors fantasmée, c'est quoi la France de Jean Gabin?
Ben c'est... C'est lié à des lieux, c'est-à-dire c'est lié à des petits troquets, à des petits bistrots qui sont tenus par des indépendants, assez loin du monde de la franchise, dans lequel on trouve des vrais gens, des piliers de comptoir. Donc il y a une sorte de fantasme autour de ça, parce que ce que je dis dans le livre, à un moment, si un jeune était transplanté dans cette France-là, je pense qu'il tiendrait pas 3 minutes, quoi, parce que le décalage en termes de mœurs et de mode de vie est immense. Sauf que ça, on l'a oublié, et c'est à travers les films et la photographie qu'on a hérité de cette France-là. C'est pour ça qu'on en est, je pense, nostalgique.
Et on peut se la reconstituer, cette France-là. Hein. C'est l'anti-McDo, l'anti-Disneyland, l'anti-console de jeu, l'anti-portable, tel qu'on les a connus aussi quand on a grandi avec ces décors et ces valeurs-là. C'est la Napa Caro, on le disait, ou éventuellement aussi le Formica.
Des couleurs vives, une allure années 60 fringante, des objets peu encombrants, les meubles en Formica font les beaux jours des brocanteurs.
Vous aviez des barres avec un design complètement resté intemporel et des couleurs vives. Le must, l'objet culte qu'on nous demande, qu'on se bat pour les acquérir, c'est le fameux tabouret marchepied.
Abandonné autrefois sur les trottoirs, il retrouve la cote. 50 euros la chaise, 150 la table, 300 pour le buffet. En 2017, la tendance est de marier les couleurs.
Le Formica, c'est un effet Madeleine de Proust qui est hallucinant. Et on a énormément de jeunes, de personnes de notre génération, voire un peu plus vieux, qui, en possédant ces objets, se rappellent des souvenirs de leur enfance. Et on est dans une période où le vintage prend de plus en plus sa place.
Le Formica, c'est ce matériau popularisé en France dans les années 50, en même temps que les premières cuisines équipées.
Fermons les yeux, rêvez Cendrillon au magique coup de baguette. À cette maison, vous trouveriez la vie plus facile et plus douce.
Voilà, le Formica, c'est le must, disaient les brocanteurs aux caméras de France 2 en 2017, c'est-à-dire pas très loin de chez nous aujourd'hui, avec le tabouret marchepied de Valeurs Sûres désormais, qui renvoie à cet univers vintage que vous décriviez, Jean-Laurent Casselli. Cette injonction au vrai, on peut dire qu'elle est née ailleurs. Les rebelles hipsters ont été les premiers à s'y conformer. Comment l'ont-ils conceptualisé et comment l'ont-ils surtout remis au goût du jour ?
Effectivement, la sous-culture hipster qui s'est épanouie en Occident entre les années 2000 et 2010 et dont je tente une analyse dans ce livre est une culture sur laquelle on a beaucoup parlé dans la mode, parce que c'est une tendance visuelle, c'est une manière de s'habiller, de se présenter, mais c'est, pour moi, c'est plus que ça. C'est aussi justement un rapport au vrai, un rapport un peu névrotique au vrai. Les hipsters sont souvent caricaturés et moqués pour être adepte du passé et adepte de la marchandisation et de la parodie du passé. Il parodie tout un tas de styles vestimentaires anciens, de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils s'intéressent au vinyle et au polaroid à l'ère du numérique. Ils apprécient les plats de grand-mère, les petits troquets, on en a parlé, le Formica, etc. Donc ils sont dans un paradoxe qui consiste à recréer du vrai ou de l'authentique, en tout cas la version qu'ils en ont, dans un monde totalement digitalisé, totalement globalisé, d'où cet aspect parfois un petit peu agaçant qu'on leur reproche, qui est à force de vouloir le vrai, de recréer un nouvel âge du, ce que j'appelle un nouvel âge du fake, quoi, voilà, c'est-à-dire un petit Disneyland hipster qui serait à l'abri justement du marketing et de ce qu'ils pensent être un monde artificiel, mais à un point juste encore une fois un peu névrotique, quoi.
Avec un sentiment d'être anticonformiste, en tout cas quand l'effet de mode là encore est lancé. Maintenant, ça a aussi dépassé largement cette communauté de hipsters, dont on a d'ailleurs du mal à définir exactement quels sont les codes et précisément la culture ou contre-culture. Mais l'exemple du vinyle est un bon exemple là-dessus. Quand on voit le boom de ce marché-là aujourd'hui, c'est assez étonnant.
Oui, je pense que le hipster en fait n'existe pas vraiment, c'est-à-dire que le c'est un stéréotype, c'est un archétype inventé par les magazines de mode, les cahiers de tendance. On en croise rarement de vrais dans la rue, et moi, ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse avec cette population un peu fictive, c'est en fait ce qu'elle dit derrière de nous tous, quoi, ce qu'elle dit de notre recherche justement de l'authenticité. Dire la consommation de vinyle, effectivement, ça dépasse largement le cercle des quelques initiés des premiers temps. et le goût pour le formica et pour les restaurants qui se décorent avec aussi. Donc je pense qu'on est loin d'une petite sous-culture très snob, très élitiste, et qu'aujourd'hui ce qui était considéré comme hipster, en fait on le partage un peu tous. Voilà, je pense qu'on a tous cette aspiration, et je me sers justement de cet archétype, encore une fois, comme un point limite en fait de la recherche d'authenticité.
Vous revenez d'ailleurs, et c'est en ouverture de votre livre essai No Fake, sur ce qui vous a déclenché cette réflexion, vous donnez aussi envie d'écrire ce livre, avec ce chef cuisinier qui a mobilisé et convoqué sa grand-mère pour l'ouverture d'un nouveau restaurant, à la fois sur la photo mais aussi sur la composition à quatre mains du menu. Cette figure de la grand-mère qui est débauchée pour venir faire la promotion de l'ouverture d'un nouveau restaurant, ça c'est typiquement ce qui est en train de se jouer aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire que la mamie, alors on la voit partout dans la restauration en ce moment. J'ai l'impression que chaque semaine s'ouvre un restaurant dont les chefs, les fondateurs, se revendiquent de leur grand-mère. Alors la plupart du temps, c'est vrai. Hein, c'est-à-dire que encore une fois, pour moi, c'est pas une critique du toc. Il s'agit pas de dire oh, ils ont allé chercher une fausse grand-mère ou c'est du marketing. Non, je pense qu'ils sont sincèrement, ils aiment sincèrement leur grand-mère et qu'ils veulent sincèrement lui rendre hommage. Ce qu'il y a, c'est que l'effet de mode. On a l'impression d'une accumulation de grand-mères au fourneau, et encore une fois, ce qui partait d'une bonne intention peut devenir un petit twist marketing un peu agaçant, et on peut avoir l'impression qu'on nous envahit effectivement de cet enrobage de vrai qui devient un discours, quoi, une sorte de storytelling de la grand-mère. Je pense que les gens qui le font ne s'en rendent d'ailleurs pas forcément compte, ils le font avec sincérité, mais c'est vrai que cette recherche, encore une fois, effrénée d'une forme de vérité qu'on va trouver, alors là, effectivement, dans le passé, dans le vintage, puisque la grand-mère est censée être garante de... On ne sait pas trop quel passé, d'ailleurs, parce qu'à mesure que les gens vieillissent et que les générations se renouvellent, les grand-mères vont finir par être des millennials, quoi. Donc, mais en tout cas, voilà, cette figure un peu archétypale de la grand-mère fonctionne très bien, parce que je pense justement qu'elle est l'inverse d'une société... qui nous paraît envahie par une consommation justement factice, industrialisée, standardisée, et derrière la grand-mère, il y a ce côté un peu rassurant, quoi, un peu safe space, quoi.
Sur les hipsters, vous dites que ce serait aujourd'hui une sorte d'archiviste de la société occidentale, le hipster, un conservateur d'un musée des styles de vie dont il réorganise périodiquement les collections. Vous reprenez aussi ce terme de l'anthropologue Eric Cohen de tourisme récréationnel. Qu'est-ce qui se joue là justement ? C'est un tourisme récréationnel, occasionnel, ou c'est beaucoup plus existentiel pour vous ?
Je pense qu'aujourd'hui, il est possible de vivre comme un touriste dans sa propre culture et sa propre société. C'est un petit peu le paradoxe et le malheur de la population hipster, justement. C'est de vouloir s'accrocher à quelque chose qui lui paraît réel. En fait, quelque chose d'assez identitaire. Parce que derrière la mamie, derrière le vintage, derrière la nostalgie, il y a quand même, je pense, la question identitaire qui se pose à ces générations, qui en ont été assez éloignées dans leurs jeunes années. On a pu penser que c'est tout le discours de la fin de l'histoire, que c'en était fini tout ça et que ils allaient être à l'aise dans un monde globalisé et cosmopolite. Et en fait, je pense que le paradoxe des hipsters, c'est qu'ils sont les deux. C'est-à-dire ils sont à la fois une population totalement cosmopolite, qu'on trouve d'ailleurs dans les grandes capitales occidentales. Le mouvement hipster s'est épanoui à New York, à Brooklyn. Et en même temps, on sent qu'il y a chez eux une revendication, une sorte de backlash culturel. Voilà. C'est-à-dire que dans la recherche de l'authenticité, dans la recherche des goûts populaires, dans la parodie des styles, on voit bien qu'il y a une manière de chercher quelque chose dont peut-être ils se sentent dépourvus. Voilà. C'est d'où l'idée du touriste de sa propre culture.
Mais ça dépasse une fois encore cette communauté des hipsters qu'on a encore du mal aussi à définir pour être quelque chose de beaucoup plus générationnel, très lié aussi aux phénomènes urbains. Vous disiez tout à l'heure, en évoquant les médias ou les médiums qui véhiculent ces valeurs, vous évoquiez Instagram qui fait circuler ces images et les formats aussi dans nos perceptions. Netflix a aussi pour vous industrialisé ce sentiment nostalgique et sait le décliner en série. Extrait de l'une d'entre elles, Stranger Things.
At least someone's happy I'm home. It's just a dream. You're dreaming.
kids anymore. I mean, what did you think? We're just gonna sit in my basement all day? Play games for the rest of our lives?
Voilà, une série qui sait faire des clins d'œil et des références au code des années 80. Là, un extrait de la bande-annonce de la prochaine saison qui sortira cet été. Énorme carton sur Netflix, la série Stranger Things qui marque ce retour aux années 80 en s'inspirant aussi des œuvres de Stephen King, de Spielberg, de John Carpenter. Là, vous y voyez ce recyclage des codes, cette démarche marketée de réappropriation décalée des codes du passé. Aussi dans ce type d'exemple et la réussite et le succès que ça peut avoir.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'adore Stranger Things parce que, encore une fois, j'ai grandi dans les années 80.
Vous n'êtes pas le seul. Hein.
Non, on est très nombreux dans ce cas. Et je pense que Netflix a réussi quelque chose d'assez incroyable avec cette série, c'est-à-dire de donner aux enfants des années 80 encore plus d'années 80 que ce qu'ils ont vécu à l'époque. C'est-à-dire que c'est une sorte de concentré l'année 80.
Et alors, vous vous y sentez mieux, vous, dans les années 80? Il y a un côté...
Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Je pense que le côté doudou, en fait, de la pop culture des années 80, qu'on retrouve dans la musique. Et la Stranger Things est une série qui est basée avec une bande-son d'époque. C'est une série qui, en fait, ne parle pas tant de ce qui s'est passé dans les années 80 que de la manière dont nous voyons les années 80. C'est-à-dire la manière dont la pop culture a écrit justement ces années, ces 80s. Et c'est ça que je trouve intéressant par rapport à la réflexion sur le vrai et sur l'authenticité. C'est que quand on regarde Stranger Things, on sait que c'est une recréation qui est celle des années 80 telle qu'on s'en souvient, avec beaucoup de références à Spielberg, à Stephen King. Et en même temps, je pense que c'est pour ça que le résultat est quelque part magique. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire mieux que l'original, hein, à parodier les années 80 et à en faire une sorte de super années 80.
Voilà, et notre village gaulois n'est pas protégé de cette vague nostalgique, loin de là. Astérix chez les hipsters, vous la racontez aussi, cette France urbaine du début du 21e siècle, marquée par ce retour, par cette quête d'authenticité. Qu'est-ce que vous appelez les pure players du faux aujourd'hui ?
Alors, c'est le premier chapitre donc qui se concentre sur la restauration. En fait, je voulais parler des restaurants qui ressemblent ou qui parodient, encore une fois, des styles passés. Par exemple, le relais routier ou le petit bistrot de quartier. En fait, on a vu dans un premier temps, les années 2000-2010, des vieux restos repris par des équipes plus jeunes, plus branchées, qui leur donnaient un petit coup de ripollinage et qui attiraient une nouvelle population dans ces lieux. Et puis, on a vu après, une deuxième phase, des créations pures, c'est-à-dire des restaurants qui ont été créés il y a un an ou il y a trois ans et qui ont l'air de venir des années 60 ou des années 70. Et en fait, c'est vrai que de plus en plus, ça devient compliqué de faire la différence entre les deux. Parce que les reconstitutions historiques sont vraiment convaincantes, y compris dans l'assiette. On peut se demander si on préfère finalement le bistrot de Jean Gabin un petit peu upgradé pour nos habitudes de consommation contemporaine.
Quoi ?
Upgradé, pardon. Monter en gamme. Ou est-ce que ce qu'on veut, c'est la pure reconstitution, quoi, la pure recréation. Encore une fois, est-ce qu'on préfère Stranger Things ou les vraies années 80 ? Est-ce qu'on préfère le vrai routier avec Jean Gabin ou l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui et qu'on peut facilement partager sur les réseaux sociaux ? Parce que tout a été prévu de la connexion Wi-Fi au menu sans gluten pour que ça corresponde à nos goûts et à nos attitudes de consommation.
C'est ça que vous appelez l'hyper-France aujourd'hui, cette propension qu'on a à produire du vieux avec du neuf à l'image de l'hyper-réalité qu'avait conceptualisé Baudrillard.
Oui, tout à fait. C'est une référence à l'hyper-réalité adaptée à la société française et à la manière dont la France est en train de se réécrire elle-même. C'est quelque chose que Houellebecq avait beaucoup abordé dans La carte et le territoire, dans lequel il imaginait une France presque au second degré, en fait, pour le tourisme. Moi, j'ai l'impression que dans certains quartiers, dans certains lieux, on peut vivre dans cette France au second degré, mais le paradoxe, c'est qu'on le fait pas tant pour les touristes que pour nous-mêmes. C'est-à-dire, je pense qu'on a appris à être de plus en plus exigeant au niveau des ambiances dans lesquelles on mange, on consomme, on se déplace, et que la France n'échappe pas à cette exigence, et qu'il est aujourd'hui, je pense que pour qu'un endroit soit pensé comme français, il faut qu'il y ait un certain nombre de codes presque publicitaires, pour qu'on le reconnaisse, y compris pour les gens qui ont grandi dans cette société, dans cette culture. Mmh. Et c'est ça que j'appelle l'hyper-France. En fait, c'est quelque chose qui est plus la France que la France, quoi.
Mais c'est pas le seul paradoxe, parce que finalement, cette culture populaire, certaines classes sociales se la réapproprient, la customisent d'une certaine manière, mais sans prendre garde aux effets à la fois de gentrification qui se mettent en place dans les villes, aux classes populaires qui en sont aussi chassées. Et donc, on adule, on admire cette espèce de culture populaire sans en même temps lui donner la possibilité de vivre ailleurs, là où elle a vraiment existé et là où elle était née. On va écouter un autre reportage signé cette fois de France 24 sur les bistrots français.
À quelques mètres de la gare de l'Est, de l'autre côté de la rue, extérieur quai, un bistrot typique des années 50. À l'intérieur, boissons, cuisine traditionnelle et bonne humeur sont servis aux habitués. Une convivialité mise en œuvre par Marcel, 50 ans de métier. Mais il peine à trouver repreneur.
La difficulté, c'est déjà le financement, la réglementation, les associations de quartier qui sont souvent révoltées par rapport au café ou par rapport à la nuisance sonore et surtout les heures qu'il faut y faire. Ça demande énormément de sacrifices. Et est-ce qu'aujourd'hui les gens ont envie de faire ces sacrifices-là? Je pense que non.
Mais pour Marcel, pas question de céder son fonds de commerce à une chaîne quelconque. Pour lui, le bistrot est l'âme du quartier à Paris ou du village en province. Un avis partagé par les voyageurs de passage.
Bon, quand on vient à Paris, oui, on va dans les bistrots parisiens, mais autrement, c'est vrai que moi j'habite à la campagne et il n'y a pas de bistrot, quoi. Donc on perd l'habitude d'aller dans les bistrots et du coup c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas de lieu de rencontre à la campagne. Hein.
Jean-Laurent Casselli, qu'est-ce que vous entendez dans ce reportage? Ce mouvement qui est en train de se jouer,
ouais,
à contresens.
Effectivement, cette forme de nostalgie qui est aujourd'hui intergénérationnelle, c'est un sentiment de perte. Un sentiment de perte qui est typique, je pense, de la modernité, de la modernisation. Encore une fois, il est cyclique. Hein. Peut-être qu'on aurait pu trouver le même sujet il y a 50 ans avec quelqu'un qui se plaignait à Paris que les rues ne sont plus les mêmes et les petits bistrots disparaissent. Donc voilà, il faut rester prudent par rapport à ça. Il faut se rappeler que c'est pas la première fois qu'on veut retourner dans le passé, en tout cas qu'on le veut d'une manière un peu métaphorique. Parce que la grande différence entre la population dont je parle et celle qui a jusqu'à présent souhaité un retour dans le passé, c'est que les hipsters, les jeunes urbains, etc., en fait, eux se contentent, si vous voulez, d'une réappropriation un peu esthétique du passé. Ça leur suffit. Ils ne veulent pas vraiment y retourner. Et c'est, pour moi, c'est la grande différence. C'est est-ce qu'on peut faire cohabiter la modernité Instagram avec le petit bistrot de quartier tel que apparemment on est encore assez nombreux à vouloir le voir et pouvoir y déjeuner, quoi.
Mais vous le dites aussi, le paradoxe de tout cela, c'est que cette hyper France là, elle met sur un piédestal un échantillon du territoire, c'est ce que vous écrivez, au risque aussi d'invisibiliser des parties beaucoup plus grandes, hein, qui tendent à devenir de grandes zones blanches ici en France.
Oui, bah à commencer par les ronds-points, quoi. On a bien vu à quel point l'urbanisme, enfin pendant le mouvement des Gilets jaunes, cet urbanisme moche, périphérique, était invisibilisé médiatiquement. C'est-à-dire culturellement, cette France-là, qui est une France moderne, elle plaît pas, on la montre pas aux touristes. Enfin, on la montre pas du tout. Et pour moi, ça fait partie aussi du questionnement. Quand on est obsédé par l'authenticité, par cette réécriture un petit peu nostalgique du pays, qu'est-ce qu'on en montre ou qu'est-ce qu'on n'en montre pas? Et alors je comprends, hein, tout à fait cette préférence pour les petits centres-villes mignons sur les ronds-points, mais c'est vrai que ça pose une vraie question déjà sur quelle est l'ampleur du territoire qui est laissé de côté, symboliquement, hein, culturellement, et est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop sur cette réinvention, sur cette reconstruction de l'authenticité, quoi.
Et puis entre l'authentique et ce qui ne l'est pas, aujourd'hui, on voit que le consumérisme a quand même modelé tous nos modes de vie et tous nos paysages. Qu'est-ce qui est moche, qu'est-ce qui est beau? Je vous propose de vous rendre avec nous à Villebon.
On présente Villebon 2 comme un exemple de la France moche. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour moi, c'est... Enfin, moche, voilà. Moche, voilà. Je dis c'est moche.
Vous trouvez pas que ça dénature la campagne?
Ah non, pas du tout. Ça donne un charme, moi j'aime beaucoup. Je suis là depuis, ça fait 5 ans et je suis très heureuse, quoi. C'est très bien.
Les lignes à haute tension, c'est ça qui...
Mais enfin,
mais ça, on peut rien y faire. Hein. Sinon, ils sont comme tous les autres.
Hein. C'est moche, il faut reconnaître. Il faut reconnaître, regardez le cadre, vous retournez, franchement.
C'est la modernité avec tous les magasins et les femmes, je pense qu'elles aiment bien.
Il y en a beaucoup au mètre carré, il y en a beaucoup pour le coin. Moi, je pense qu'il y en a même trop pour la région.
Écoutez, autrefois, il n'y avait strictement rien ici. Hein. Il y avait vraiment, on a connu ça, il n'y avait rien. Ben moi, je trouve que ça rend bien service, un poids, c'est tout.
Aujourd'hui, Villebondeux, ben c'est un centre commercial qui marche, qui a créé 1 000 d'emplois depuis son existence, 1 000 emplois. Et vous savez, des emplois pour des petites gens, pas forcément pour ceux qui écrivent dans Télérama.
Voilà, ça c'est le maire qui termine dans cet extrait. C'est ce que ça a produit en termes d'emploi. Donc, qu'est-ce qui est moche, qu'est-ce qui est beau? Et puis, autrement dit aussi, est-ce que la France périurbaine qui va au McDo aujourd'hui est plus authentique? Ne l'est-elle finalement pas plus?
Alors, je pense que oui, et j'irai même plus loin. Je pense que c'est la prochaine vague de recherche d'authenticité. C'est-à-dire que le McDo, le rond-point, si on suit le mouvement de l'histoire esthétique, il n'y a pas de raison qu'ils échappent à cette réappropriation, justement un petit peu décalée, un petit peu ironique. Le loft, après tout, est une création contemporaine sur les ruines de l'industrie. On peut très bien imaginer que le loft du futur sera construit dans une zone commerciale périphérique à l'abandon. Enfin, en tout cas, ça paraît absurde aujourd'hui, mais ça paraissait tout aussi absurde de vivre dans des usines il y a 50 ans. Donc, je pense que ce territoire, justement parce qu'il est invisibilisé, justement parce que il est mis de côté, et alors qu'il est omniprésent, a effectivement une forme d'authenticité en lui, et que on va voir de plus en plus dans la photo, dans le cinéma, dans les arts de manière générale, on va le voir représenté, je pense, et de manière de plus en plus positive.
Mais ce paysage périurbain, il est aussi un legs des années précédentes. Vous citez notamment dans votre essai No Fake, Rem Koolhaas, qui lui-même avait écrit en 95, c'était d'époque, la ville générique, où il dessinait les contours d'une ville monde, d'une ville modèle, une ville libre, débarrassée des carcans identitaires, ces mêmes carcans qu'on cherche à retrouver aujourd'hui.
Oui, ça c'est totalement fini, c'est-à-dire que on le voit bien dans l'urbanisme, les gens majoritairement veulent des maisons et du typique, quoi, de l'authentique. Je porte pas de jugement de valeur, quoi, c'est plutôt un constat. D'ailleurs, toute classe sociale confondue, j'ai l'impression que c'est une aspiration assez généralisée. Peu de gens veulent habiter dans le moderne. Bon, là, on a entendu dans le sujet de Villebon que certains peut-être sont autour d'une zone commerciale et s'en contentent, mais enfin, en tout cas, je pense pas qu'ils en soient particulièrement heureux. Donc, effectivement, on a un problème de projection dans l'avenir avec cette obsession de l'authenticité, puisque on ne peut pas forcément construire quelque chose de neuf, quelque chose d'original. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui que dans les années 90.
Ce que vous dites, c'est que ce besoin d'authenticité, il a toujours existé, qu'il existera toujours.
Oui, il existe.
Tout dépend ce qu'on met dedans.
Oui, il existera toujours. Et la meilleure manière pour moi de vivre bien avec, c'est de l'accepter et de se rappeler que la course à l'authenticité est elle-même un peu fake, en fait, un peu empruntée, et qu'elle nous pousse en tout cas dans des retranchements qui finissent par n'avoir plus aucun sens quand on arrive au point de ne plus faire la différence entre la réalité et sa reconstitution.
En fait, c'est l'histoire d'une quête d'authenticité que vous avez écrit là, plus qu'une contre-histoire, non ?
C'est une forme de quête, en tout cas. C'est une forme de chemin, et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière cette quête, en fait.
Il nous emmènera où, ce chemin ?
Assez loin de la reconstitution historique dans laquelle on vit en ce moment, en tout cas, j'espère.
C'est-à-dire ?
Dans d'autres territoires, je pense, dans d'autres types d'esthétiques également, parce qu'on ne va pas pouvoir refaire, par exemple, les années 80 tous les 30 ans. Il faudra bien qu'à un moment on avance et qu'on se régénère à de nouvelles formes, à de nouvelles esthétiques pour s'inspirer. Les formes que prend l'authenticité elle-même évoluent.
Mais pour vous, c'est profondément une question esthétique ?
Pas seulement, puisque c'est aussi le rapport à soi-même, la vie, effectivement, la vie authentique. C'est une vie qui correspond à nos valeurs. Mais moi, c'est vrai que je me suis beaucoup concentré sur la consommation et sur les lieux, sur le lien au territoire. Parce que je pense que c'est aujourd'hui la forme que prend cette quête. Majoritairement. Ben je pense encore une fois que le par exemple la restauration, pourquoi j'ai consacré le tiers du livre à la restauration, parce que je pense que c'est dans ces lieux, dans ces expériences là qu'on se projette quand on parle d'authenticité. D'ailleurs, quand j'ai commencé à interviewer des gens autour de moi, la plupart me citaient des lieux dans lesquels ils aimaient aller manger. Enfin voilà, il y a un rapport. Je pense qu'il y a un rapport aussi de l'enfance dans l'alimentation. Et donc je pense que ça. Aujourd'hui, je pense que ça s'incarne comme ça. Je pense que ça s'incarne dans les lieux dans lesquels on va, les lieux dans lesquels on se sent à l'aise. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une manière plus facile aussi d'amener ce sujet qui est un sujet assez abstrait, assez théorique. C'est pour ça que je voulais beaucoup d'exemples. Je parle par exemple de la vogue des pizzas à Paris. Enfin, il y a des petits troquets dans leur jus. Il y a plein d'exemples comme ça, très concrets, qui permettent d'entrer dans ce gros sujet qui est l'authenticité d'une manière un petit peu détournée, quoi.
Quelle est la capitale de l'authenticité pour vous aujourd'hui?
Alors, ça a été Brooklyn au début du XXIe siècle. Qui était la ville qui correspondait en miroir à tout ce qu'on ne voulait, enfin, qui était la ville qui prenait le contre-pied de Manhattan, en fait. Après d'ailleurs le 11 septembre, c'est la ville où le mouvement hipster s'est épanoui. Berlin a eu son heure, je pense que c'est un peu passé. Peut-être Marseille.
Marseille demain, ouais, c'est bien.
Pourquoi pas?
Merci beaucoup à vous, Jean-Laurent Casselli. Je rappelle le titre de ce livre, No Fake, une contre-histoire de notre quête d'authenticité, qui vient de paraître aux éditions Arqué. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table culture, avec Mathilde Tonfourcade et Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Nasser Moussaoui. Très belle après-midi à tous sur France Culture, très beau week-end aussi, et je vous retrouve lundi pour une nouvelle Grande Table.